Bonsoir à toutes et à tous. Après la série des démissions et d'auto-exclusions, c'est au tour maintenant des messages de désolidarisation et désistement au sein de la plateforme G7 et de la majorité présidentielle. Nous en parlons dans moins d'un quart d'heure. Et en santé, le ministre de la Santé publique a déclaré l'épidémie de choléra mercredi en République démocratique du Congo et l'épicentre est à Kindu au Maniema. Voilà les deux thèmes de la tribune de la presse de ce vendredi 25 septembre 2015. Et les invités dans ce studio sont Baudouin Saïlé, éditeur responsable du journal La Tchopo qui paraît à Kisangani dans l'ex-province orientale. Bonsoir Baudouin.
Bonsoir, bonsoir à tout le monde.
J.R. Mokolo, directeur des informations à Canal Congo Télévision, une télévision qui émet ici à Kinshasa. J.R., bonsoir.
Oui, bonsoir Berry, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et au téléphone, Solange Lusiku Simire, éditrice du journal Le Souverain, paraissant à Bukavu au sud Kivu. Elle est aussi vice-présidente de l'UNPC. Solange, bonsoir.
Oh, bonsoir, Barizé, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Encore une fois, merci de nous avoir choisis pour décortiquer l'actualité de la semaine en trois quarts d'heure. Et pour commencer, nous allons voir comment la presse écrite a analysé l'actualité de cette semaine avec vous, Alain Irung, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir. L'actualité cette semaine était alimentée par la suite de ce que l'on peut appeler l'affaire du G7, de la MP, des démissions, révocations, reniements et ralliements en cascade. Concernant la MP versus G7, l'heure était lundi au bilan et la prospérité flanque le protocole de la MP à l'hôtel Vénus où s'est fait le contrôle de fidélité à Joseph Kabila. Eh bien, ce protocole parle de 300 députés qui sont déjà venus répondre à l'appel et signer leur fidélité. Alors que Forum des As signalait côté G7 une dizaine de démissions déjà à Kinshasa, mais également quelques-unes au sud Kivu, dans le gouvernement provincial, sans oublier l'ancienne province du Katanga à la mairie. Ce qui pousse le potentiel à qualifier le MSR parti qui a eu le plus de démissions dans la MP depuis l'actuelle crise de, je cite, parti solide et discipliné. Faut-il minimiser ces départs du côté G7? Ces deux journaux répondent non. Ces départs fragilisent, soutiennent ces médias, surtout pour Forum des As qui titre déjà, je cite, des plénières pour l'élection des bureaux au Parlement car soutient ce quotidien avec notamment la démission du premier vice-président de l'Assemblée nationale ou encore le rapporteur du Sénat. Les deux bureaux du Parlement sont réputés incomplets. Parlons santé. Le Phare tire la sonnette d'alarme dans ce domaine en RDC, je cite, 26 zones de santé du Katanga touchées par la rougeole. Et l'Observateur, quant à lui, titre, par la bouche du ministre de la Santé publique, le gouvernement congolais déclare officiellement l'épidémie de choléra au Maniema. Et le confrère de poursuivre que d'après les dernières données épidémiologique, plus de 1000 cas, dont 52 décès, ont été déjà enregistrés. Autre sujet d'actualité, le calendrier de la session de septembre a été voté hier. Le projet de calendrier n'a pas subi des modifications majeures, rapporte la prospérité. Avant de poursuivre, je cite, parmi les nouvelles matières, la grande priorité sera accordée au projet de loi des finances de l'exercice 2016 et le projet de loi portant reddition des comptes du pouvoir central pour l'exercice 2014. Les élus vont aussi se focaliser sur le contrôle budgétaire. Entre-temps, l'opposition fustige le blocage du calendrier électoral et proteste contre le projet gouvernemental de nommer des commissaires spéciaux à la tête des provinces. Le Phare, la Prospérité et Forum des As sont parmi les tabloïds qui relaient ces informations ce vendredi. L'opposition dénonce la nomination des commissaires spéciaux, écrit le Phare, élection 2015-2016, la CENI en difficulté, titre de son côté la Prospérité.
Merci Alain Irung et les autres sujets qui ont fait l'actualité de cette semaine. C'est d'abord le calendrier électoral, vous venez de l'entendre. Alain Rond l'a souligné, la CENI devait lancer la campagne électorale pour les élections provinciales jeudi, mais ça n'a pas été fait. Par contre, Jean-Pierre Kalamba, le rapporteur de cette institution d'appui à la démocratie, a affirmé que le réaménagement de ce calendrier est imminent. Alors, Baudouin Saïlé, comment vous comprenez cette situation au niveau de la CENI?
Merci. Ce sont des problèmes inhérents de la vie pratique, mais j'ai confiance que, comme il y a des problèmes, il y a des gens compétents qui peuvent regarder en face le problème, prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et trouver des solutions. Et sinon, on ne peut pas marquer les pas intérieurement. Hein.
Et vous croyez qu'il y aura que les élections provinciales auront bel et bien lieu?
Mais ça doit avoir lieu suivant...
En principe, c'est pour le 25 octobre.
Bon, attendons voir les réaménagements techniques de la CENI qui se fait actuellement. Et la CENI sera capable de diffuser ça devant tout le monde pour qu'on sache qu'est-ce qu'on peut faire d'ici le 25 octobre.
Alors, Gir Mokolo, est-ce que vous croyez aux élections provinciales qui doivent avoir lieu au mois d'octobre déjà? C'est déjà demain.
Non, au mois d'octobre, en tout cas, c'est irréaliste. Franck Leberi Luchaka, c'est vraiment irréaliste parce que le 24 septembre, il était prévu les débuts de campagne électorale. Rien n'a été fait et on n'a rien commandé, ni isoloir, ni urne, ni bulletin de vote. Donc, ça démontre que rien, en tout cas, n'a été fait du côté de la CENI pour que ces élections puissent avoir lieu. Je me rends compte que l'insistance, par exemple, sur la loi sur la répartition des sièges pour les élections locales, municipales et urbaines, était là un grain de sable qui devait en principe bloquer ces processus. Donc c'est irréaliste. Je crois qu'avec l'annonce du réaménagement du calendrier de la CENI, on va sûrement nous indiquer d'autres dates ou peut-être on fera comme l'avait conseillé Kengwa Dondo, que cette année qui se termine, on s'occupe par exemple de la révision du fichier électoral et avec l'enrôlement des nouveaux majeurs, et en 2016, on peut se concentrer sur les autres élections, en privilégiant les élections législatives, provinciales, nationales et l'élection présidentielle qui est prévue par la Constitution et locale, je crois. Ce sera en tout cas réaliste qu'on les renvoie après 2016.
D'accord. Alors, Solange Lusikou, est-ce que vous êtes aussi pessimiste comme Gir Mokolo qui estime que ce n'est pas évident qu'on puisse avoir les élections provinciales au mois d'octobre?
Bon, les élections provinciales au mois d'octobre, jusqu'ici, elles sont hypothétiques. Elles sont hypothétiques. Et donc, si déjà nous sommes au mois de septembre et qu'il n'y a rien qui est fait sur place, et qu'on nous dise que le mois d'octobre, il pourrait y avoir des élections, sinon ce sera des élections de saupoudrage, parce que si on peut quand même se rappeler l'expérience de 2006 et de 2016, on voit tout ce qui peut s'appeler préparatif, combien de temps ça prend, le matériel, comment il est dispatché. Donc, jusque-là, il n'y a rien qui est fait. Et si on peut se permettre d'espérer que ces élections pourraient avoir lieu, moi, je pense que c'est peut-être rêvé.
D'accord, c'est aussi rêvé selon vous. Et puisque vous avez la parole, cette semaine, qu'est-ce qui a fait l'actualité chez vous à Bukavu?
Chez nous, à Bukavu, je dirais, les gens, ils ont les yeux grandement ouverts pour voir l'évolution de la situation, car ça bouge un peu trop sur les plans politiques, tant dans la majorité présidentielle que dans l'opposition. Mais il y a une petite note tout à fait malheureuse que je dois signaler ici, c'est que... il y a le corps d'un étudiant congolais qui a été accueilli à Bukavu hier, un étudiant congolais qui suivait ses études au Burundi, qui a été l'une des victimes d'une tuerie dans un salon de coiffure à Bujumbura, lorsque un commando a fait irruption et qu'il a tiré sur tout le monde.
Paix à son âme alors. Dans l'autre actualité de la semaine, ce sont les Jeux africains qui se sont clôturés les dimanches derniers à Brazzaville et la RDC y a glané 16 médailles pour sa participation en dépit d'une préparation difficile dans les différentes disciplines représentées. C'est mieux qu'il y a des années, qu'il y a quelques années aux Jeux des Maputo où la RDC avait remporté 7 médailles dont 2 en bronze, 5 en bronze. Alors Gir Mokolo, est-ce que vous êtes satisfait de la prestation des léopards?
Oui, quand on a fait 7 à Maputo et qu'on puisse en faire comme ça, on puisse avoir 16, je crois que c'est quand même un progrès. Mais il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé. Et nos athlètes se sont retrouvés là-bas sans tenue. Il s'est même posé le problème des droits qu'on devait payer, qu'on n'avait pas payé. Donc il était même hypothétique que nous puissions rembourser, en tout cas, participer à ces Jeux africains. Il va falloir qu'on puisse quand même essayer un peu de nous organiser sur ce plan-là. Parce que vous savez, dans la diplomatie, il n'y a pas que les diplomates. Il y a aussi les sportifs, ce sont des agents qui vendent l'image du pays à l'étranger. Il y a des pays, l'Éthiopie était connue grâce à ses athlètes qui remportaient des médailles partout. Donc il va falloir vraiment que, de la même façon qu'on se bat pour construire des infrastructures, il va falloir qu'on puisse aussi penser à la diplomatie congolaise, à ceux qui permettent en tout cas de vendre positivement l'image de la RDC à l'étranger en mettant du paquet. Ce n'est pas de l'argent qu'on jette comme ça dans l'eau, mais c'est de l'argent qui sert en tout cas à contribuer à l'amélioration de l'image du pays. Et je crois que les autorités doivent en tout cas y penser.
D'accord. Alors, Baudouin Saïlé, Gir Mokolo l'a relevé, il y a un problème de préparation au niveau des sportifs en RDC. Comment vous analysez ce problème-là?
Mais de l'autre temps, j'applaudis la construction des infrastructures à Kinshasa. Vous voyez, par exemple, dans mon quartier de Barumbu, le stade deviendra des super opérationnels. Que ça se fasse à l'intérieur du pays, par exemple. Et je me souviens...
C'était le projet du président de la République quand il était en train de poser sa candidature.
Voilà. Par exemple, à Kisangani, il y a le stade de Lumumba qui a été réhabilité à peine 5-6 ans par le chef de l'État lui-même. Aujourd'hui, abandonné à son triste sort. Qu'on fasse rapidement pour réhabiliter le stade de Lumumba, afin que si nous arrivons à Kisangani, qu'on puisse aller voir la pépinière, les joueurs qui s'adonnent à ce jeu sportif. Vous comprenez? Alors, je dis tout simplement que les 16 coupes qu'on a ramenées, 16 médailles qu'on a ramenées de Brazzaville, mieux vaut cela que zéro, par exemple. Hein,
mais la préparation.
Justement, la préparation, mon frère, il y a l'argent qui est là, mais est-ce que la volonté y est pour ceux qui sont, qui doivent encadrer, qui doivent sécuriser, qui doivent faciliter le départ de nos enquêtes à l'extérieur du pays. Mais pourquoi ne pas donner un minimum à chaque joueur pour qu'il se retrouve là où il est parti, pour qu'il laisse un petit paquet à la famille, si vous comprenez. Nous vivons jour le jour. Non, ayons la volonté, aimer le Congo pour que demain nous ramenions le plus que 100
médailles.
100 médailles.
Ok. Solange, est-ce que à Bukavu on a suivi les Jeux africains et la participation de la RDC aux Jeux africains?
Oui, on a suivi à la télé à travers différentes chaînes. Et moi, je peux féliciter la RDC Congo pour les 16 médailles parce que nous connaissons nous-mêmes dans quel genre de difficultés vivent nos athlètes au Congo. Comment ils font des miracles pour s'entraîner dans des infrastructures totalement vétustes et parfois même sans infrastructures. Ce que moi je veux mentionner ici, c'est qu'on a des talents au Congo. Nous avons des talents dans tous les domaines. Mais le malheur, c'est que la mauvaise gouvernance ne permet pas à ces talents-là de briller partout et de prouver de quoi ils sont capables. Alors, ça me rappelle même... un cas malheureux qu'on a connu à Bukavu dernièrement. Il y a un jeune footballeur qui a fait la fierté d'une équipe, une grande équipe comme Bukavu Dawa durant des années ici, qui est mort dernièrement. Il a longtemps été cloué sur son lit de malade, sans assistance. Et au moment où il y a eu quelques personnes qui voulaient l'aider, c'était déjà avec beaucoup de retard, il est mort. Pourtant, il a marqué beaucoup de buts pour Bukavu Dawa et pour les Sud-Kivu, pour la République démocratique du Congo.
Merci beaucoup. Et c'est sur cette note que nous allons ouvrir notre premier dossier de la semaine, qui concerne la suite du dossier G7. Alors, après la dissidence du groupe des 7 partis politiques anciens de la majorité présidentielle, on assiste ces derniers temps au reniement, aux démissions et même aux allégeances de certains membres de ces partis, plus particulièrement au Parlement. Certains parlementaires appartenant au parti de ce groupe refusent d'obéir à l'autorité morale de leur formation et font allégeance ailleurs. Maintenant, qu'adviendrait-il en ce qui concerne leur mandat au Parlement lorsqu'ils ne quittent pas délibérément leur parti? Cette question divise les constitutionnalistes. Le sénateur de l'opposition, le professeur Jacques Joly, estime que lorsqu'on désobéit à la ligne de conduite de son parti dont on a reçu mandat électif pour faire allégeance à une autre autorité morale, ça veut dire qu'on a quitté délibérément son parti et on perd ainsi son mandat. On écoute le professeur de droit constitutionnel et sénateur Jacques Joly.
Naturellement, il est parfois difficile aux membres d'un parti d'obéir comme dans une sorte de caporalisation à des oukases, n'est-ce pas, émanant de l'autorité morale. Dans ces cas-là, la loi sur le parti politique prévoit des mécanismes de règlement des conflits, c'est-à-dire c'est le tribunal de grande instance qui doit résoudre un problème. Voilà une première piste. Une deuxième piste, c'est lorsque alors le parti s'est régulièrement réuni et il y a eu une discussion saine et qu'il y a eu une déclaration formelle de l'instance instances du parti qui prennent une ligne politique. À ce moment-là, par décence politique et aussi par obligation constitutionnelle, c'est lui qui ne partage plus la ligne du parti à l'obligation morale de remettre le mandat du parti. Parce que nous ne sommes pas élus juridiquement à titre personnel, à moins qu'on soit indépendant.
Un avis qui n'est pas du tout partagé par le député de la majorité au pouvoir, Ambroise Kamukuni, professeur de droit constitutionnel et chef du département de droit public interne à l'UNIKIN, pense, je cite, « On ne perd pas son mandat par le simple fait de contester la décision du président de son parti. Pour le perdre, il faut délibérément quitter son parti d'après la constitution. » Fin de citation. Et on l'écoute.
Il peut arriver qu'un membre du parti conteste la décision de son président fondateur. La contestation de cette décision peut-elle être considérée comme avoir quitté délibérément son parti politique? Je ne le pense pas. Ceux qui ont décidé de quitter ou de désavouer l'autorité morale de l'AFP, oui, mais ce qu'ils faisaient là, est-ce que c'était l'allégeance? Si on s'écarte de la ligne politique d'un parti politique, généralement le parti politique a une commission qu'on appelle la commission de discipline. Et cette commission de discipline procède normalement à inviter le membre qui conteste. On l'entend. Si on estime que les règles ou les clauses des statuts ou du règlement intérieur ont été violées et que ça donne lieu à l'exclusion, en ce moment, on exclura. On ne peut pas supposer. C'est-à-dire, quitter délibérément son parti politique ne peut pas être présumé.
Un dossier signé Jeff Ngoy. A noter que cette semaine, c'est le ministre des Sports, le ministre provincial du Katanga des Finances qui ont rejoint la vague des démissions. Mais vous venez de nous prendre en cours. Sachez que la Tribune de la Presse reçoit ce soir dans ce studio Baudouin Sahili, éditeur du journal La Chopo, paraissant à Kisangani dans l'ex-province orientale, J.R. Mokolo, directeur des informations à Canal Congo Télévision, une télévision qui est née ici à Kinshasa, et Solange Lusiku Simire, éditrice du journal Le Souverain, paraissant à Bukavu. Alors, Baudouin Sahili, comment vous comprenez cette vague de reniements, des démissions et même des allégeances de certains membres du G7?
J'ouvre une petite parenthèse pour signaler que la Tchopo est imprimée à Kinshasa et puis envoyée dans leur pays, hein, à Bukavu, à Goma, à Isiro, à Bouta, etc. Il est imprimé à Kinshasa.
La Tchopo est imprimée à Kinshasa.
Merci beaucoup.
Voilà.
Mais, mon cher ami, en ce qui concerne les démissions,
les allégeances,
tout et tout, ça s'appelle l'apprentissage de la démocratie. La jeune démocratie n'a pas encore atteint son stade de maturité, vous comprenez. Lorsque on est membre d'un parti politique, on s'adhère pour faire plaisir à l'autorité morale, parce qu'on a accepté sa vision politique ou tout simplement parce qu'on a faim. Non, il faudrait que j'aille à la mouvance présidentielle, c'est là où coule le miel, où je dois rester à l'opposition pour discuter, pour que moi aussi je dois... Non.
En d'autres termes, vous êtes d'accord avec le professeur Jacques Joly.
Justement, je suis d'accord avec le professeur Jacques Joly. Je dis que lorsqu'on est dans un parti politique, il faut en être conscient que moi, j'opte cette ligne de conduite parce que je me retrouve. Et comportez-vous tel quel. C'est que ce n'est pas de la majorité présidentielle où le G7 s'est désolidarisé, ça s'appelle la honte. C'est la honte. Vous êtes bien encadré. Vous avez des postes ministériels. À tous les rôles, parfois vous y restez. Et il y a des présidents des partis politiques qui ne veulent jamais céder l'espace à leurs membres. Ce sont eux qui sont au pouvoir de A à Z. C'est étonnant. Alors aujourd'hui, s'il y a des problèmes au niveau de la voie présidentielle, il faudrait qu'on traite le pouvoir à l'interne, qu'on discute, on les décrit des lettres et des lettres. En fin de compte, on pousse l'autorité morale à agir. Aujourd'hui, ils vont en pâtir. Hein. Je ne sais pas s'ils seront en mesure de payer les loyers, comme ce fut le cas jadis. Je dis ceci, hein, le président de la République, c'est un militaire. Il est officier général.
Il a pris congé de sa fonction de militaire.
Mon cher, ça reste dans le sang. Il y a des aptitudes qui doivent rester dans le sang. Il doit reprendre son bâton de pèlerin. Il doit quitter Kinshasa pour descendre dans l'arrière-pays.
Mais comment vous comprenez cela? Qu'est-ce qui se cache finalement derrière tous ces ralliements autour de ces désistements du G7 pour la majorité au pouvoir?
C'est la fin, tout simplement. Lorsque cette fois-là, peut-être que le chef n'a pas tendu l'oreille à leur désidérata, ils ont claqué la porte. Tout tourne autour de l'argent. On n'a pas les minimums, mon cher ami. Je vais continuer. Laissez-moi 2 minutes pour dire ceci.
Une minute seulement.
Le président de la République doit prendre le bâton de pèlerin pour visiter les 26 nouvelles provinces pour qu'ils s'acquièrent, des réalités, des états de lieux, de tout. Il peut commencer par la province de Haut-Tolé, à Isiro, où est enterrée la surannualité, pour que la surannualité puisse lui donner d'autres pouvoirs, capables de déstabiliser ceux qui veulent déstabiliser au départ.
D'accord.
Vous comprenez? Il doit aller dans l'arrière-pays, il y a beaucoup de problèmes dans l'arrière-pays, au lieu de rester écouté des sons de cloche de ça ou de la distraction.
Voilà. D'accord. Alors, J.R. Mokolo, est-ce que vous comprenez toutes ces vagues des désistements et des réuniments?
Bon, je ne voudrais pas en tout cas abonder dans le même sens que les doyens Saïd et Mbalanga. Je ne crois pas que tout est lié à la question d'argent, que moi aussi, par exemple, au Kingo Akumwanza, qui est quand même un homme d'affaires au-delà d'être un politicien, et qu'ils auraient demandé de l'argent qu'on ne leur ait pas donné, et puis voilà, ils claquent la porte.
Je vais parler au conditionnel,
Ok, s'il vous plaît, si je peux continuer.
Oui.
Moi, je pense qu'il faut entrer dans les fonds de cette affaire. Ce n'est pas la première fois que ce groupe-là de G7 écrit au chef de l'État, à l'autorité morale de la majorité présidentielle.
C'était la troisième fois.
La troisième fois. Mm-hmm. Ça veut dire que les deux premières fois, ils n'ont pas été entendus. Ils ont répété la même chose pour la troisième fois.
Mm-hmm.
Et au lieu, par exemple, de les écouter pour qu'on mette tout là sur la table, bon, on a déjà pratiquement soumis à l'auto-exclusion. Mais il faut d'abord entrer dans les fonds du problème. Quand ils disent, par exemple, que nous devons, au niveau de la majorité, nous choisir par exemple un candidat et que nous puissions nous aligner face à ceux qui cherchent à prendre le pouvoir, je crois que c'est réaliste plutôt que de suivre ceux qui prônent les glissements, ceux qui prônent le prolongement du mandat du président.
Il n'y a pas de problème au niveau des têtes, des leaders de ces partis politiques, mais c'est au niveau des membres de ces partis politiques qui finalement décident soit de se rallier, de s'accrocher à leur poste de ministre ou de député pour faire allégeance.
Il faut d'abord se poser la question de savoir pourquoi les Congolais, par exemple, vont en politique. Ils ne le font pas comme ailleurs, on va en politique pour servir.
Là, vous rejoignez finalement Baudouin qui parle de la faim.
Non, moi, je ne parle pas de la faim pour les leaders, par exemple, des G7.
Mm-hmm.
Peut-être on peut parler de la faim,
pour les
de l'enrichissement pour ceux qui refusent de quitter le bateau un peu avec leurs leaders.
Mm-hmm.
C'est si, par exemple, je suis ministre, bon, j'ai jamais été ministre, c'est une occasion pour moi de me remplir les poches. Si je dois le suivre, est-ce qu'il va s'occuper de ma vie? Je crois que le prof Jacques Joulet l'a relevé aussi dans une interview sur RFI, que dans les contextes de la pauvreté, la démocratie en tout cas est difficile à appliquer dans une société. Moi, je pense que ceux qui sont posés comme problème, il y a quand même des problèmes de fonds qu'ils ont posés,
mm-hmm.
Vraiment la problématique de l'élection du gouverneur.
Mm-hmm.
Mais est-ce que pour élire des gouverneurs, il faut des millions? On peut acheter même un cahier de 24 faits ici, avec une assemblée de 20 personnes, on peut organiser une élection. Les cautions que les candidats ont payées, ça peut suffire pour organiser les élections.
D'accord.
Donc ça veut dire qu'il y a quand même des forces tapis dans l'ombre qui manipulent, qui font en sorte qu'on puisse arriver par pratiquement un cul de sac pour faire en sorte que les élections ne se tiennent pas, pour que les glissements, tant souhaités par certains, puissent en tout cas avoir lieu.
D'accord. Solange Lusiku, à entendre les deux avis des constitutionnalistes, on semble comprendre qu'il y a un certain flou. Est-ce que vous comprenez cela?
Oui, moi je pense que c'est un problème au Congo. C'est un problème au Congo. C'est souvent même ces gens-là, des professeurs d'université parfois, qui doivent montrer l'exemple à la population qui trempe dans des histoires, en rentrant dans des débats qui ne sont pas constructifs.
Mmh.
Le fait même que ces deux constitutionnalistes-là soient partagés, ils influencent directement tous les peuples congolais et qui peut facilement oublier les valeurs pour lesquelles ils se battent depuis des années. Moi je pense par rapport à ces démissions, à ces réuniments, à ce désengagement et même désolidarisation.
C'est le mot d'ailleurs qui est à la mode.
Oui, il y a l'absence de l'idéal. Ce qui réunit les partis politiques, parce qu'ils se retrouvent dans les G7 actuellement, ils les réunissent pour s'accrocher peut-être à la majorité présidentielle, tout simplement à cause du ventre, comme venait de le dire le premier intervenant.
Baudin, oui.
Parce qu'on n'a pas encore enregistré un seul reniement de quelqu'un qui n'est pas aux commandes. C'est toujours ceux qui ont été nommés par les partis politiques qui les renient aujourd'hui. Les gens se demandent, est-ce que ces gens-là oublient qu'ils doivent ce poste-là à leur parti politique, qu'ils n'ont pas été élus? Moi, je parle ici des ministres et des autres. Je ne parle pas des députés nationaux ou provinciaux, mais eux aussi doivent se les rappeler. Ils ont été élus parce qu'ils ont fait partie de ces partis politiques. Donc, c'est une attitude d'ingratitude et d'inconstance politique de la part de ceux qui renient leur parti politique.
D'accord.
Mais ça prouve à suffisance qu'ils ignorent les règles du jeu.
D'accord.
Mais, si tu peux me permettre de continuer.
Vas-y.
Je dirais que jusqu'à preuve du contraire, c'est la politique du ventre. Parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas assez engagé jusqu'à ce jour et qu'il leur faut encore du temps pour s'engraisser un peu plus. Et c'est le moment pour eux de voler. Seulement les responsables de la majorité devaient se méfier peut-être de ces gens, de gens, et ne pas se frotter les mains, parce que à la première manifestation de faiblesse de la part de la majorité présidentielle, ces mêmes personnes-là vont se retourner. Mais il reste une question à se poser. Où iront-ils? Vont-ils aller dans le parti qu'ils ont trahi, ou vont-ils adhérer dans la nouvelle majorité présidentielle, parce qu'elle va se constituer, étant donné que le MSR, qui était le deuxième parti de la majorité présidentielle, n'est plus là, il y aura un autre parti qui va occuper cette place, et ce parti revendiquera ce qui lui revient, notamment les postes que ces gens-là occupent.
Alors,
et à ce moment, fidèle à leur comportement de trahison, de traîtrise, ils vont se retourner encore contre cette nouvelle majorité, donc c'est un problème.
D'accord, justement Solange, vous m'avez dévancé, parce que la dernière question que je voulais poser pour faire ce dernier tour de table, c'était de savoir jusqu'où iront ces démissions, ces réuniments, ces désolidarisations. Vous avez une idée de la réponse à apporter?
Jusqu'où iront ces réunions, ces engagements?
Jusqu'où, oui.
Oui, c'est la peur du lendemain, mon cher. C'est la peur du lendemain, le manque de fidélité des uns qui risquent d'allonger la liste des partis politiques.
D'accord.
Il y a ceux qui se retrouveront dans la rue après remaniement. Ils doivent chercher à sauver leur vie politique. Et l'on assistera à des naissances de partis politiques qui n'ont ni tête ni queue. Mm-hmm. Ce qui ne fera que nourrir la dispersion des mouvements politiques et de ces faits, désorienter même l'opinion.
D'accord.
On n'aura donc jamais la majorité sans coalition, alors que la République démocratique du Congo que nous aimons tant a besoin d'une majorité vraie, une majorité ontolique et non une majorité en patchwork de partis qui du reste ne servent que de leurs besoins personnels sans penser au peuple.
Merci Solange. Alors Baudouin, jusqu'où ira ces démissions et ces réuniments? Solange a parlé de la peur du lendemain. Tous on a été d'accord pour comprendre que c'est la politique du ventre qui est mise en exergue, mais jusqu'où on ira avec toutes ces démissions?
Mais j'apprends tout à l'heure, là, quand vous avez fait le résumé, qu'il y a 300 députés qui sont allés à l'hôtel quelque part pour signer l'acte de fidélité. Non. Non. Ça devient de l'aventure. Il n'y a pas de signature d'acte de fidélité. C'est le cœur. Ou bien vous êtes avec le chef, ou vous n'êtes pas avec le chef. C'est clair. Alors, comme le ventre est creux, mon cher ami, aujourd'hui, j'apprends que, par exemple, dans l'arrêt pays, les députés provinciaux, dont leur mandat a débordé, comme il n'y a plus de paiement, ils sont à pied, fatigués, affamés. Moussengo nous avait dit à la conférence nationale, conférencier, honorable, attention, ici c'est l'espace politique, ça peut se terminer à tout moment. Il faut conserver vos fonctions primaires. Journaliste, il faut l'être, médecin, juriste, n'oubliez pas vos fonctions primaires. Ici c'est la politique, à tout moment ça s'arrête. Mon cher ami, j'en ai vu toutes les couleurs ici au niveau de la conférence nationale. Quand on a arrêté la conférence, nous qui avons la chance de passer au Parlement, nous sommes passés, mais quand on avait arrêté la conférence, il n'y avait plus de paiement de perdième, tout le monde est devenu fatigué, avec des babouches, on ne paye plus le loyer et tout et tout. Si aujourd'hui les cas, vous aimez le chef, le raïs vraiment, ou bien vous entrez des circuler autour du chef pour qu'il y ait des miettes.
D'accord.
Sans vision, je vous assure.
Voilà, alors J.A. pour conclure.
Je dirais que cette vague, en tout cas, de reniement, des missions d'allégeance va se poursuivre jusqu'à ce que peut-être on va remanier le gouvernement et qu'on va peut-être remplacer ceux qui ont démissionné au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau même du Sénat, parce que nous tous nous sommes d'accord ici que les gens ne vont pas en politique pour servir, mais c'est pour se servir, c'est pour se remplir les poches. C'est vraiment malheureux parce que c'est ce cas-là est arrivé par exemple au MLC. Ils sont allés aux concertations et ils se sont dit nous y allons pas pour partager le pouvoir. À la fin des concertations, il y a eu deux groupes qui se sont présentés, ceux qui voulaient partager le pouvoir avec le régime actuel et ceux qui disaient non, nous devons nous en tenir à ce que nous avions décidé avant d'aller aux concertations. Et vous avez vu aujourd'hui un autre parti naître, le MLCL, et encouragé par ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'il faut fragiliser le parti de l'opposition. Et un parti, par exemple, qui n'a même pas fait autant d'années prévues dans la loi électorale pour participer aux élections, mais il est autorisé à participer aux élections. Donc, quel que soit ceux qui sont du G7 vont faire, même s'ils vont en justice pour réclamer leur mandat, parce qu'il faut rappeler que beaucoup de gens ont été élus sur la liste des partis, mais tant que la justice répondra à la volonté politique, je crois que rien ne se fera et ils n'auront que leurs yeux en tout cas pour pleurer. Et c'est dommage qu'on en arrive à ce point-là. Et puis ça me rappelle aussi à l'époque du maréchal Mobutu, par exemple. Il y a un document qui est sorti dans les années 90, les temps de réniement. Donc le même personne qui bouffait avec le maréchal, quand il a prononcé son discours de 24 avril 90, ils ont traversé la rue, le fleuve Congo pour l'opposition avec armes et bagages. Donc je crois que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas une nouveauté. L'histoire est en train de se répéter.
Merci. Et c'est sur cette note que nous entrons dans notre deuxième partie, dans la deuxième partie de notre émission qui concerne le dossier de la santé. Justement, dans le domaine de la santé, le gouvernement congolais, par la voix de son ministre de la Santé publique, a déclaré mercredi 23 septembre l'épidémie de choléra. Et si en province de Maniema, où se concentre pour la première fois le foyer le plus important et le plus inquiétant. Selon Félix Kabangenumbi, qui a présenté les statistiques à la presse, entre le mois de janvier jusqu'à ce jour, plus de 1050 cas ont été enregistrés avec 52 décès. Une autre maladie qui préoccupe le gouvernement congolais, c'est la rougeole, qui a fait pour la même période plus de 500 morts sur un peu plus de 36 250 cas enregistrés. Alors, Innocent Olinga, quelles sont les autres précisions qu'a donné le ministre de la Santé?
La cartographie donnée par Félix Kabangé indique que le choléra a touché au Maniema, la ville de Kindu, dans ses zones de santé sur les deux rives, les territoires de Kailo et quelques foyers épars dans cette province. Félix Kabangé cite également la zone de santé de Tiomia en Ituri, la zone de santé de Lubunga dans la Tchoupo, Wanyarkula vers l'axe de Lubutu, Ubundu vers l'axe Maniema, la ville de Goma au nord Kivu, la cité d'Uvira et Shabunda au sud Kivu, sans oublier l'ex-Katanga, dont les contrées comme Bukama, Malembankulu, Kale ont un choléra devenu presque permanent. Une politique de riposte est déjà mise en place, rassure le ministre de la Santé. S'agissant de la rougeole, elle a fait, selon Félix Kabangé, 528 morts depuis janvier dernier sur 36 291 cas enregistrés, c'est dans 48 zones de santé, dont 26 dans l'ex-Katanga, qui bat les records de décès avec 80%. La cause étant la faible couverture vaccinale, la faiblesse de la chaîne des froids et l'insécurité, les gouvernements s'emploient, déclare Félix Kabangé, avec son partenaire Gavi, a doté les zones de santé des frigos solaires pour la conservation des vaccins. Et plus de 2500 frigos sont déjà commandés, affirme Félix Kabangé.
Alors, J.R. Mokolo, qu'est-ce qui explique selon vous la résurgence de ces épidémies?
Bon, quand vous prenez
surtout du choléra.
Quand vous prenez par exemple le choléra, c'est une maladie dite des mains sales. Mm-hmm. Donc c'est une maladie qui est due en tout cas à la malpropreté, à l'insalubrité. Donc il y a un problème d'accès par exemple à l'eau potable qui pose problème. Il y a la promiscuité qui pose problème. Donc, les gens vivent dans des conditions difficiles. Par exemple, quand on voit les déplacés, ils fuient la guerre, par exemple, ils se retrouvent là comme du bétail parqué, sans eau potable. Donc, je pense que ça peut être là la cause. Quand vous voyez pour le choléra, Innocent Lingala relevé, la faiblesse de la couverture vaccinale, et dans certains contrées, il n'y a même pas d'électricité, et il faut des frigos solaires qu'on passe maintenant à avoir.
Mais est-ce qu'en amont, on ne pouvait pas commander ces frigos pour éviter qu'on arrive à ce genre de situation?
Malheureusement, nous n'avons pas la culture de la prévention. Et l'Africain, et le Congolais en particulier, il passe son temps à se divertir, à se distraire, mais il ne pense pas à sa santé. Donc, on ne prévoit absolument rien. Nous attendons seulement qu'une catastrophe arrive ou une épidémie arrive pour qu'on puisse maintenant commencer à agir après coup. C'est un peu la grande difficulté que nous avons ici. Donc ça repose en tout cas à la problématique de l'accès aux soins de santé dans notre pays.
Alors, Baudouin Saïlé, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à des crises sanitaires. C'est chaque année pratiquement. Comment vous expliquez cela?
Bon, nous sommes en voie de développement. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Franchement. Et à l'époque de l'ex-Zaïre, il y avait un bateau hôpital. Un bateau hôpital qui quittait Kinshasa, avec des médecins à bord, avec des médicaments.
Et qui faisait la ronde de
la République. Sur le fleuve, les enfants, tout ça. Il faudrait que le gouvernement de la République réhabilite le bateau hôpital. Vous comprenez, à ce moment-là, ça va se
faire. Est-ce qu'il existe aujourd'hui? Il existe toujours jusqu'à aujourd'hui?
Bon, on poserait la question à qui de droit. On va mener des enquêtes là-dessus. Je crois que ça peut exister parce que le Chanik est là avec autant de bateaux. On va essayer de réhabiliter ça comme on a fait avec ITB. Vous comprenez un peu ça, hein? On ne peut pas être pessimiste comme ça autant, chers confrères, etc. J'aime que le gouvernement de la République prenne en charge les dossiers santé. La République est vaste. Comme il y a la choléra à gauche. Moi, je vois la maman, la première dame, hein, elle vient de l'intérieur du pays où elle a pu soigner des femmes avec des goitres, tout et tout, des enfants avec bec de lièvre.
Bec de lièvre, oui.
Comprenez, il y a autant de maladies, il n'y a pas que la rougeole.
Mais la choléra, quand même, c'est déclarer le choléra, et surtout au Maniema, pour une première fois, c'est quand même grave.
Je ne sais pas si le ministre de la Santé a déjà pris l'avion rapidement, même un jet. Mais jet pour descendre à Kindu et se passe là-bas avec le gouverneur en fonction et aller constater les faits sur le terrain et prendre des dispositions utiles pour qu'il y ait 500 morts. C'est quand même trop. Voilà. Il y a les problèmes de l'eau potable, il y a les problèmes d'électricité, il y a les problèmes de route, il y a autant de problèmes à résoudre. C'est pour ça que je suis en train de proposer au chef de l'État de quitter Kinshasa momentanément et de sillonner la République pour aller vivre les véracités. Non, écoutez, mon frère ami, parce que... Non, écoutez, voilà, nous complétons, hein, je demande au chef de l'État, et qui est au chef de l'État dispatcher de certaines organisations? Le chef de gouvernement est là, les ministres sont là, au lieu de rester à Kinshasa, que tout le monde se déploie à l'arrière-pays pour voir des problèmes parfois insolubles, mais qu'on peut solutionner jusqu'à en voyant l'autorité venir. La population va
qui puisse redonner l'espoir.
Ça donne l'espoir, vous comprenez? Au lieu qu'on laisse la population telle qu'elle, mais quand je dis chef de l'État, celui le commandant suprême, je veux dire, celui le
garant de la nation.
Le garant de la nation, et à son niveau, il suit au capi, il peut demander au ministre, il peut demander au premier ministre qu'en est-il au juste pour ce cas-là qu'il a au capi de parler.
D'accord. Vous
comprenez? Pas trop demander au président. Il est le président de la République, papa.
D'accord.
Il est le président de la République qui doit être entouré par. C'est pour ça que le chef, parfois, dit que j'ai besoin de 15 personnes à ses côtés, hein. Parce qu'il y a des différences ici et là.
D'accord. Alors, Solange, est-ce que vous comprenez cette résurgence des épidémies, particulièrement pour la première fois l'apparition de l'épidémie de choléra au Maniema?
Ah oui, mais je voudrais d'abord placer un mot en rapport avec ce que mon prédécesseur vient de dire.
Oui.
Je pense qu'il ne faut pas surcharger la première dame de la République.
Non.
Quel est son cahier de charge pour qu'elle s'occupe des questions de santé à travers le pays? Est-ce que le devenu ministre...
Ma fille,
ne quittez pas.
Est-ce que le devenu ministre de la Santé, pour qu'on lui demande de s'occuper de cette question-là, d'aller partout dans le pays pour s'occuper de la question de la santé? Je pense que non. Les gens peuvent se poser la question où commence sa poche et où elle se termine. Elle est première dame et n'est pas ministre de la Santé. Aussi, je voudrais ajouter ceci. En tant que Congolais, nous devons nous poser une question. Comment expliquer qu'au XXIe siècle, aujourd'hui, il y ait autant de survenance d'épidémies alors qu'on a tout pour pouvoir éviter ces épidémies chez nous? on a la science qui a beaucoup évolué, on a l'information qui est là en termes de sensibilisation, on a des financements qui nous viennent de soit de la Banque mondiale.
Mais nous tombons toujours dans les mêmes choses.
Oui, alors ?
Je dis, mais nous tombons toujours dans les mêmes erreurs.
Oui, nous tombons toujours dans les mêmes erreurs. Alors, moi je me dis, c'est, bon, comme mon confrère l'a défini, le choléra, c'est une maladie des mains sales. Moi, je pense qu'il faut tout simplement des mesures de propreté partout à travers le pays pour essayer de juguler cette maladie. Ici, au Sud Kivu, par exemple, la pluie a causé des dégâts récemment à Kamituga et il y a plusieurs mois à Kalemie. Ces familles ne sont pas assistées comme il se doit par le pouvoir et dorment à la belle étoile. Si l'épidémie de choléra se déclarait là aussi, c'est parce qu'on n'a pas, on a pas prévenu. À Nyamugo, ici à Bukavu, il y a eu 33 familles incendiées la fois passée. Ces familles vivent à la belle étoile. Personne ne s'en occupe. Et lorsque le choléra va se déclarer, on dira, voilà, les gens ne sont pas propres. Il faut que la première dame parcourt le pays en train d'aller assister les malades. Je pense que non, c'est pas comme cela que les choses doivent se passer. Nous avons de l'eau. Vous savez tous que nous avons de l'eau, mais nous n'avons pas de l'eau potable. Parce que tout simplement, l'État qui doit s'en occuper en intervenant la régie des eaux ne le fait pas. Donc, quand les gens ne peuvent pas se laver en ville, déjà, vous connaissez à Kinshasa, et même dans les villes comme Bukavu et ailleurs, un bidon d'eau coûte 100 francs congolais pour toute une famille. Les gens ne se lavent pas. Et c'est des gens qui vivent dans la saleté. Mais là, lorsqu'on on essaie un peu d'interroger toutes les propagandes selon lesquelles on aurait doté les habitants de tel ou de tel milieu de pompes à eau et de bonnes fontaines pour leur approvisionnement en eau potable, à terme, ces campagnes s'avèrent plus politiques que sociales et c'est des initiatives qui tombent caduques parce qu'il n'y a pas appropriation de toutes ces campagnes-là par la population.
D'accord. Alors,
Oui. Donc, comme j'ai une maladie des mains sales, je pense que comme le ministère de la Santé a échoué, qu'on laisse alors à la presse de faire son travail de sensibilisation pour appeler tout le monde, inviter tout le monde à la propreté. Peut-être qu'avec nos voix et nos plumes, nous allons réussir là où ceux qui ont du travail pour ça ont échoué.
Merci Solange, et ce sera ça votre conclusion. Alors Baudouin, votre mot de conclusion, parce qu'on arrive déjà à la fin de notre émission.
Bon, moi, le conclusion, c'est peut-être une parenthèse pour dire à ma sœur Solange que je n'ai aucun pouvoir pour surcharger le chef d'État, je n'ai aucun pouvoir pour surcharger la première dame. J'ai tout simplement donné un exemple que la première dame revient de temps en autre de l'arrêt pays où on voit qu'elle est en train de soigner avec des médecins, des gouattes, etc.
D'accord, cette mise au point est finie. Alors, votre conclusion, Solange a proposé que la presse prenne en charge la sensibilisation. Qu'est-ce que vous proposez?
La presse peut prendre en charge la moyennant des facilités.
Parce qu'elle estime que le ministère a échoué dans la sensibilisation.
Bon, moi, je ne conclue pas comme ça.
Oui,
moi, je
vous concluez comment?
Que le ministre de la Santé est appelé à descendre sur le terrain à tout moment. Il y a des problèmes à travers la République. Tous les ministres du gouvernement, au lieu de rester dans la salle climatisée à Kinshasa, sont appelés à descendre dans toutes les 26 provinces de la République pour taper du doigt la vérité de Dieu, vous comprenez? Au lieu d'écouter, non, il y a des morts. Redescendez là-bas, ramenez les rapports au niveau du gouvernement pour
poser
des actions concrètes, c'est ça.
D'accord.
C'est ça, c'est tout le monde, voilà.
C'est ça. Merci. Alors, J.R. Mokolo, en guise de conclusion, votre dernier mot?
Bon, si je dois conclure en tout cas sur cette question de santé, je dirais tout simplement qu'il faut que ceux qui dirigent en tout cas le pays prennent leurs responsabilités en main. Il faut qu'on assure l'hygiène publique. Il ne faut pas que les gens dorment en tout cas sur leur laurier parce qu'un peuple qui n'est pas en bonne santé, c'est un peuple qui ne peut rien donner en tout cas pour son pays. Je me rappelle dans les années 60, des Sud-Africains quittaient leur pays pour venir se faire soigner ici à Kinshasa. Mais malheureusement, C'est le contraire, c'est nous qui allons en Inde, qui allons en Suisse, qui allons en Afrique du Sud pour nous faire soigner. Ça veut dire que nous n'avons pas progressé, nous avons beaucoup régressé sur le plan de la santé.
Merci beaucoup, c'est ça votre conclusion. La tribune de la presse est finie pour ce soir, mais avant de conclure, nous présentons, tribune de la presse présente ses condoléances à la famille de notre confrère Alfred Kalumbo qui est décédé mercredi à Kinshasa, Alfred Kalumbo de la RLTV. C'est fini donc, tribune de la presse pour ce soir. William Lungamba était à la prise de son. Alain Irung a coordonné cette édition sous la supervision de Pelé Kipelamondo. Berry Franklin Luchaka qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi.